VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. Les accusations lancées hier soir par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à propos du programme nucléaire de l'Iran sont l'œuvre d'un menteur invétéré en panne d'idées, affirme aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères iranien dans un communiqué. M. Netanyahou avait affirmé lundi devant les télévisions israéliennes que son pays disposait de preuves concluantes sur l'existence d'un plan secret que l'Iran pourrait activer à tout moment pour se doter de la bombe atomique. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a estimé pour sa part que les affirmations du premier ministre israélien ne remettaient pas en question le respect par Téhéran de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. L'Allemagne a réclamé aujourd'hui une exemption durable de taxes sur les importations d'acier et d'aluminium après la décision de Washington de prolonger d'un mois le sursis accordé notamment à l'Union européenne. Berlin juge particulièrement important que l'Union européenne poursuive le dialogue avec les États-Unis et précise que la Commission européenne va désormais discuter avec les États membres de la conduite à tenir. Les Européens ont déjà prévenu que s'ils se voyaient frappés de droits de douane, des mesures de représailles visant des produits emblématiques américains seraient imposées. Le chef de l'armée birmane a exclu que ces hommes aient violé des musulmans rohingyas dans le cadre de ce que l'ONU nomme un nettoyage ethnique lors de la première visite d'une délégation du Conseil de sécurité depuis le début de la crise. La Birmanie est accusée d'épuration ethnique depuis le déclenchement à la fin du mois d'août 2017 d'une opération militaire à la suite d'attaques de rebelles rohingyas. Près de 700 000 musulmans vivant dans cette région se sont réfugiés au Bangladesh. L'armée et des milices bouddhistes sont accusés de multiples exactions, viols, tortures, meurtres, incendies de villages, ensuite rasés.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Sur le continent, au Gabon, la Cour constitutionnelle a dissous l'Assemblée nationale et demandé la démission du gouvernement. La présidente de cette juridiction reproche aux autorités gabonaises de n'avoir pas organisé les élections législatives avant la fin du mois d'avril. Raïssa Girondin.
La Cour précise que le mandat des députés a pris fin et que le chef de l'État doit procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement. Madeleine Bourantsuo, présidente de la Haute Cour, précise que le gouvernement n'a pas pu accomplir ses missions, dont la révision de la liste électorale depuis 2017 et la mise en place du Centre gabonais des élections depuis janvier. Selon la Haute Cour, le gouvernement a surtout échoué dans l'organisation des législatives au plus tard le 30 avril, après deux reports depuis décembre 2016. Le Parlement gabonais est considéré comme illégitime depuis dimanche 29 mars. Les législatives n'ont pas été tenues dans les temps fixés. La Cour constitutionnelle a donc décidé de transférer les pouvoirs de l'Assemblée nationale au Sénat jusqu'à la proclamation des résultats des législatives. La date de ces législatives sera annoncée après saisie de la Cour par le Centre gabonais des élections, qui doit prêter serment demain mercredi. Le CGE, qui rassemble la mouvance présidentielle et l'opposition, vient remplacer la Commission électorale nationale autonome et permanente, ou CENAP, qui avait validé l'élection présidentielle contestée d'août 2016.
Nous sommes le 1er mai 2018 et le dossier de ce journal nous conduit au Cameroun. Le 1er mai, fête internationale du travail, ne sera pas célébré avec beaucoup de ferveur par plusieurs agents de sécurité privée au Cameroun. Ces derniers déplorent de plus en plus ce qu'ils appellent les mauvaises conditions de vie et de travail. Syndicats et sociétés civiles au Cameroun s'en inquiètent aussi. C'est ce que dit notre correspondant Emmanuel Jules Ntap à Yaoundé.
Les vigiles, comme on les appelle communément au Cameroun, assurent la sécurité des entreprises publiques, privées, mais aussi de certains domiciles. Tenus de travail ou pas, ils filtrent les entrées et sorties de jour comme de nuit, mais vivent dans des conditions de travail précaires. Ousmane et Abdourahmane sont employés de deux sociétés de sécurité privées à Yaoundé.
Ils ne nous fait pas bien, c'est ça le problème.
Et on vous paye combien?
35 000. Si quand tu as fait un an dans les sociétés, on va te donner les primes. Ils sont parlés comme ça, ils ne donnent pas aux gens.
Quand on vous dit qu'on vous paye tel son, après tu te retrouves avec les moitiés, bien on diminue un peu dans ton salaire.
Ces mauvaises conditions de travail des agents de sécurité privée sont les mêmes sur l'ensemble du territoire national. La société civile camerounaise qui s'est penchée sur ce dossier évoque de graves violations des droits de l'homme de ses travailleurs. Dora Sende et Boubakari Hassana, membres du collectif camerounais des organisations des droits de l'homme et de la démocratie dans les régions du littoral et de l'extrême nord.
Dans le littoral, il y en a qui font des licenciements abusifs. Non seulement tu lui pro prives d'un droit qui est de travailler, mais tu lui prives aussi du droit de recevoir la contrepartie par rapport à un contrat que vous vous êtes donné.
Il y a les employeurs qui ne veulent pas affilier leur personnel. Il y a le non-respect des textes et les règlements.
Seules 9 sociétés de sécurité privée détiennent l'agrément d'exercice d'activité au Cameroun. Difficile dans ce contexte pour les responsables des syndicats de défendre les droits des vigiles camerounais. Célestin Mbara, secrétaire à l'organisation de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun.
Que les employeurs de ce côté, dès qu'ils sentent qu'un garçon est syndiqué, ils le mettent à la porte. Mais à la CSTC, nous étions à l'origine de l'élaboration de leur convention collective, malgré qu'elle connaît des petits couacs toujours du fait des employeurs au niveau du ministère du Travail.
La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, organe créé par le gouvernement, a été saisie par le collectif camerounais des organisations des droits de l'homme et de la démocratie sur la situation des employés des entreprises privées de sécurité. Pierre-Paul Moubitan, président du dit collectif.
Nous entrons dans ce domaine aussi pour aller sensibiliser, former, suggérer, de manière à ce que tous les acteurs puissent travailler en synergie pour qu'il y ait véritablement une bonne gouvernance dans ce secteur.
En attendant, la plupart des vigiles camerounais vont vivre un 1er mai plein de soucis. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Après leur rencontre dans le bureau ovale, les présidents Mouhamadou Bouhari et Donald Trump ont donné une conférence de presse hier dans le jardin de la Maison Blanche. On fait le point avec John Lyndon.
Le président Trump a d'abord remercié son homologue Bouhari, disant qu'ils ont tellement de choses à faire ensemble, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme. Les deux hommes ont aussi discuté de commerce et d'équipement militaire. M. Trump a d'autre part rappelé qu'il y a le problème des chrétiens qui sont tués au Nigeria. De son côté, M. Bouhari a bien sûr remercié son hôte en précisant que malheureusement, la sécurité a été le sujet principal de leur discussion. Il a remercié les États-Unis qui sont maintenant d'accord pour vendre des hélicoptères à Abuja et pour la présence militaire américaine pour des besoins de formation de l'armée nigériane, disant que son pays vit pleinement l'engagement des États-Unis contre le terrorisme. Sur la question des filles kidnappées au Nigeria avant son arrivée au pouvoir en 2014, le président Bouhari a répondu que 80 d'entre elles ont été libérées. Pour celle de Dapchi, selon lui, 106 ont été kidnappées et 100 ont été retrouvées, 4 sont mortes et une est toujours en captivité. Le président nigérien a enfin remercié les Nations Unies pour leur rôle dans la libération de ses filles.
Jean-Roger Billon à ce micro, vous suivez la Voix de l'Amérique, la suite du journal. La Belgique a affirmé lundi qu'elle n'était plus représentée par un ambassadeur en République démocratique du Congo après une série de tensions diplomatiques entre Bruxelles et Kinshasa dues à la crise politique en RDC. Le départ du dernier ambassadeur belge en poste était intervenu après la décision de Kinshasa de fermer la maison Schengen, sorte de consulat européen géré par la Belgique qui instruit les demandes de visa pour 18 pays européens. Kinshasa avait réagi à la décision de la diplomatie belge de redéployer l'aide publique au développement vers des ONG pour protester contre la crise politique dans le pays. Toujours à propos de la RDC, 7 morts et 18 blessés dans une fusillade à Goma, la grande ville de l'est du pays. Des crimes particulièrement violents sont enregistrés à Goma, comme ces derniers mois, avec des enlèvements d'enfants et des demandes de rançon, et surtout des violences suivies de meurtres sur les petits otages. Il y a aussi des cas isolés de braquage de commerce. Et puis pour terminer, la France a condamné hier les menaces et intimidations répétées au Burundi à l'encontre de toute voix discordante de l'opposition politique, des défenseurs des droits de l'homme et des médias indépendants. C'était en réaction à la condamnation à 32 ans de prison d'un militant ayant protesté contre le troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza. Le tribunal de grande instance de Bujumbura a condamné jeudi Germain Rukuki à cette sentence, l'une des plus lourdes peines jamais prononcées au Burundi selon la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.